esprit abattu sur celui qui craint ma parole. Donne-nous, Seigneur, d'être de telles personnes ce matin, que nous puissions être ceux avec l'esprit abattu, ceux qui craignent ta parole. Donne-nous donc de trouver secours et délivrance en Jésus-Christ. À Babylone, il y avait deux merveilles du monde antique. Les mythiques jardins suspendus, dont vous avez sûrement entendu parler à un moment donné, mais également les remparts de la ville, des murs aussi épais, disent-on, qu'un chariot à quatre chevaux pourrait faire demi-tour au-dessus. Impressionnant. Dire un habitant de Babylone au XVIe siècle avant Jésus-Christ que rien que quelques siècles plus tard, la ville même n'existerait plus, elle est quelque part aujourd'hui en Irak, mais on ne sait pas trop où, mais cela aurait été incompréhensible. Impensable. Telle était la puissance de l'Empire babylonien de l'époque. Mais aujourd'hui, ce royaume-là fait partie uniquement de l'histoire, de l'Antiquité. Il faut aller au musée pour comprendre mieux sur cette ville. Mais aujourd'hui, le Dieu de la Bible continue à être adoré, loué. À Bruxelles, à Bucarest, à Béni, ou là où le peuple de Dieu se trouve. Cela, les exilés à Babylone, ils avaient besoin de savoir. Et nous qui sommes aussi, comme Daniel, des exilés dans ce monde, nous avons aussi besoin de savoir. Il n'y a rien que de mieux que le chapitre 4 du livre de Daniel pour marteler ce point-là. Si le chapitre 2 montrait surtout que Dieu est le Dieu qui révèle des mystères, rappelons-nous de cela, si le chapitre 3 nous montrait à quel point Dieu est un Dieu qui délivre, le chapitre 4 confirme bel et bien que Dieu est celui qui règne. Non seulement que son règne régnera, durera éternellement, ce qui est le cas, nous l'avons vu aussi au chapitre 2, mais qu'aujourd'hui même, il règne à cet instant, bien qu'on ne le voit pas toujours avec nos yeux. Ce livre, d'ailleurs nommé Daniel, n'est pas en premier lieu un livre d'histoire à propos de Daniel, mais plutôt un livre à propos de Dieu. Voilà, Daniel, en tant que tel, n'apparaît pas dans tous ces quatre premiers chapitres que nous avons déjà parcourus ensemble. Au chapitre 3, Daniel n'a pas été mentionné. Mais il y a un homme qui figure dans les quatre chapitres, à savoir le roi païen, le roi babylonien, Nebuchadnezzar. Et le chapitre 4, le point culminant du parcours de Nebuchadnezzar. Un parcours qui l'amène à la foi. N'est-ce pas extraordinaire, cela? Dieu nous encourage à voir dans ces chapitres comment, dans sa souveraineté, Dieu œuvre pour qu'un roi païen puisse arriver à plier le genou devant le Dieu vivant et vrai. Et il le fait à travers le ministère de Daniel. Je pense que le chapitre se résume de manière assez rapide. N'est-ce pas? Nous avons affaire à un nouveau rêve effrayant de Nebuchadnezzar, nous l'avons vu. Cette fois-ci, Nebuchadnezzar, il ne tarde pas à donner le contenu de son rêve à tous les sages qui s'y trouvent, mais il fait appel surtout à Daniel. Daniel qui donne l'explication de ce rêve, quand le grand arbre du rêve, que le grand arbre du rêve représente, verset 22 de notre texte, le roi lui-même. Et que ce roi, aussi puissant qu'il soit, il sera chassé du milieu des hommes et deviendra comme les bêtes des champs, verset 25, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le rêve devient réalité. Nebuchadnezzar, tu fier de lui-même, et humilié, chassé du milieu des hommes, verset 33, il devient comme une bête. Je pense à Gollum dans les histoires du Seigneur des Anneaux. Il ressemble un peu à cela, il paraît. Verset 34, il lève enfin les yeux vers le ciel et la raison le revient. Restauré par la main miséricordieuse de Dieu, il se tient à proclamer la puissance de Dieu à la terre tout entière. Et avez-vous remarqué que l'ensemble du chapitre 4, c'est un témoignage quand le début et la fin de ce chapitre sont écrits dans la première personne du singulier. C'est le roi Nebuchadnezzar qui parle. Verset 1, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon, il continue, de faire connaître les signes et prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Et que veut-il qu'on sache, verset 3, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. La fin du récit, Nebuchadnezzar reprend la parole. Première personne du niveau du singulier. Verset 34. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Mais il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Donc la mélodie principale de ce verset, de ce chapitre, c'est assez clair, n'est-ce pas? C'est l'équivalent, si vous voulez, du discours de fin d'année du roi des Belges, diffusé à tout le peuple, ici à toute la terre. Et que dit-il? C'est Dieu qui règne. Avant de voir la portée de ce point-là, j'ai failli vous aller voir que d'abord, nous allons juste remarquer en passant le ministère d'un serviteur de Dieu, il s'agit de Daniel, au service d'un roi puissant, Daniel, en comprenant le rêve, il fut, verset 19, stupéfait. Et cette pensée le troublait. On peut imaginer cela, n'est-ce pas? Il sait que le rêve signifie que le roi, tant qu'il est serviteur, sera humilié. Oser dire de telles choses à un roi aussi puissant, c'était de jouer avec sa propre vie. On peut imaginer la scène, non? Il sait à quel point c'est dangereux. Mais encouragé par le roi, il procède. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Si seulement cela pourrait être le cas. Daniel, lui qui se trouve dans le service de Nebuchadnezzar, à cause des armées conquérantes et sans merci de l'Empire babylonien, ne devrait-il pas plutôt faire preuve de joie d'apprendre que ce tyran babylonien sera aplati enfin? Non. Même si c'est vrai, le jugement est mérité, il ne prend pas plaisir à l'annoncer. Non, ici, il fait preuve d'amour, de l'empathie à l'égard de son maître, le roi Nebuchadnezzar. Il a une capacité d'admirer les qualités de ce roi païen. N'est-ce pas dans le rêve le cas que verset 21, le feuillage de l'art était beau, les fruits abondants. Il y avait donc un côté très positif de l'empire babylonien. Et Daniel l'avait remarqué. Mais si nous remarquons d'abord donc son empathie pour le roi, il faut aussi remarquer son courage. Car il déclare néanmoins les intentions de Dieu de juger, d'humilier Nebuchadnezzar. Il ne mâche pas ses mots. Il est d'abord, voyez-le, le serviteur de Dieu avant d'être le serviteur de Nebuchadnezzar. Verset 27. Il n'hésite pas à donner même des conseils audacieux à Nebuchadnezzar. Oh, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Au lieu d'avoir peur du roi, il a plutôt peur même pour le roi. C'est le roi, le soi-disant puissant, qui, lui, est effrayé de son rêve. Daniel, quant à lui, essaie de rendre sa situation plus propice. Donc Daniel, du fait de son dévouement et son attachement à Dieu, est un don de la grâce de Dieu auprès de ce grand roi païen. Qui aurait pensé que la déportation de ce jeune homme judéen aurait pour conséquence la conversion d'un roi despote. Telle est l'influence de Daniel, que le roi l'écoute. Et cela, je pense, doit nous encourager à faire preuve de ces mêmes qualités aujourd'hui, dans le monde, par les païens. Empathie et courage. Ni avec un esprit trop hautain pour comprendre les difficultés et la pression auxquelles ceux qui sont autour de lui doivent faire face, ni avec un esprit trop timide qui limite nos propos à ce que l'autre a simplement envie d'entendre. L'empathie, le courage. Le Seigneur vous a mis à côté de qui on va travailler. Aux études, vous êtes à côté de qui? Vous avez quel membre de la famille non-croyant qui vous rend visite ce Noël? On ne peut pas savoir ce que le Seigneur concocte dans son plan souverain. Mais c'est le contact personnel avec des croyants remplis d'empathie et de courage qui reste l'outil le plus puissant pour que quelqu'un d'autre s'ouvre à l'évangile de Christ. Prenons l'exemple d'hier. Il y avait parmi nous un couple qui a fait connaissance de quelqu'un dans le parc. Un autre couple et une autre maman qui a rencontré quelqu'un à l'école de leurs enfants. Quelqu'un d'autre qui fréquente le groupe pour jeunes mamans de cette église qui est venu avec son enfant. Vous savez, recevoir un flyer de quelqu'un inconnu, c'est un anonyme religieux pour la personne qui le reçoit. Mais recevoir une invitation de la part de quelqu'un digne de notre confiance, c'est une petite chose. Donc empathie, de courage. Et on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Mais c'est comme ça que le Seigneur travaille pour attirer de nouvelles personnes vers nous. Mais si nous observons cela chez Daniel, nous allons maintenant tourner notre regard de nouveau au témoignage de Nebuchadnezzar. Donc c'est là où nous devons surtout terminer ce matin. Donc d'abord, nous allons remarquer son orgueil. Son aveu est au verset 37, n'est-ce pas? « Je glorifie le roi des cieux qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Et combien il avait été orgueilleux, ce roi. Au contraire de ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas parce qu'il admirait les œuvres accomplies à Babylone qu'il était orgueilleux. Non, je pense que nous pouvons affirmer, même si nous n'avons aucune image de ce que ces fameux jardins suspendus donnés à Babylone, mais que nous pouvons affirmer que ces jardins étaient magnifiques, splendides. C'est pour des raisons légitimes, encore aujourd'hui, que nous fêtons la beauté, la créativité, la réussite d'une nouvelle technologie que nous voyons aujourd'hui à notre époque, un nouvel iPhone qui sort. C'est chouette, c'est impressionnant. Les croyants de la Bible ne sont pas les rabat-joies à tout accomplissement de l'homme, comme si nous avons un peu peur d'applaudir quoi que ce soit, car cela pourrait contribuer à l'orgueil de la personne qui est responsable. Non, nous sommes admiratifs devant les exploits des autres. Non, le problème de Nebuchadnezzar, c'est le fait d'attribuer la gloire pour de tels exploits à lui-même, n'est-ce pas? Plutôt qu'à Dieu. Verset 30, il se promène avec une belle vue de la ville dans son palais. N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme ma résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Oh là là! Bravo, bravo à toi, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et pourtant, se moquant de lui, nous nous moquons de nous-mêmes. Alors cet orgueil est là dans le cœur de chacun d'entre nous. On ne peut rien faire dans la vie, rien faire sans que Dieu le permette. Il est le Dieu créateur, notre créateur. Chaque talent que je possède, chaque opportunité qui se présente devant moi, chaque gramme d'énergie que je possède pour mettre dans tout ce que je fais, toute la créativité que j'ai, tout cela vient de Dieu. Tout souffle que j'ai, c'est un don de sa grâce. Notre vie est menée par la puissance de Dieu et devrait être pour la gloire de Dieu. Mais le problème de Nisa, c'est que Dieu n'entrait même pas dans sa pensée. On le flattait pour ses accomplissements et il le croyait. Ce qui est bien trop souvent également le cas pour nous, chers amis. Nos accomplissements intellectuels, sportifs, musicaux, ma carrière à moi, mes investissements, ma belle famille, mes beaux enfants. Bravo, Steve! Bravo! Bravo! Oui, j'ai bien fait, n'est-ce pas? Mais est-ce aussi grave que cela? Un tel péché? N'y a-t-il pas des péchés plus graves, quand même plus conséquents, qu'un peu d'orgueil? C.S. Lewis, peut-être vous avez entendu parler de lui, dans son livre « Les fondements du christianisme », a un chapitre consacré à l'orgueil. Et comment est-ce qu'il intitule ce chapitre? Le grand péché. Voici, je cite, il y a un vice dont aucun homme au monde n'est pas exempt. Le vice essentiel, le mal suprême, est l'orgueil. L'impudicité, colère, avidité, ivrognerie et tout le reste ne sont que morsures de puce en comparaison. L'orgueil est l'état d'esprit totalement anti-Dieu. C'est vrai. Car cela met le moi au centre de ce monde. Et si moi j'y suis, Dieu non plus. Et le cœur du péché, c'est le rejet de Dieu. Dans un sens, l'orgueil de Nebuchadnezzar, d'ailleurs, est assez poli. Il le reconnaît, nous l'avons vu à la fin du chapitre 3, n'est-ce pas? Que personne ne doit rien dire de mauvais de ce Dieu, donc il respecte Dieu. Mais il continue à vivre comme si Dieu n'existait pas. Et donc ensuite, il devait passer par un moment fort, humiliant. Il est devenu comme un animal. Éventuellement, c'est une maladie mentale que nous appelons apparemment la boanthropie. Pendant 7 ans, mais éventuellement c'est 7 ans, mais on n'est pas sûr de cela. Mais le but de cette humiliation, c'est l'abaissement. C'est ça qui permet que Nebuchadnezzar lève sa tête, enfin, vers là-haut, reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Verset 34, vers le ciel. Avant cela, il était trop haut à ses propres yeux. Et il se peut que le Seigneur doive encore se servir d'un événement grave. C'est souvent le cas d'ailleurs. Une maladie, un affaiblissement physique, un échec conséquent dans notre vie, notre carrière, notre vie de famille, notre couple. Pour qu'on se rende compte qu'il n'y a qu'un seul ultimement qui tient les rênes de ma vie dans ses mains. Il se peut que les circonstances de la vie vous amènent, même à ce moment-ci, ce matin-ci, finalement à écouter ce message-ci, à reconnaître que oui, je ne suis qu'un être créé. Je suis prêt à céder enfin à ma conscience que je suis redevable envers mon Créateur, que je ne maîtrise ni le monde, ni ma vie à moi. J'ai besoin de l'aide. Non pas pour encore réussir, mais d'abord quand je vois à quel point mon attitude envers mon Créateur, jusque-là, un rejet de lui, mérite donc son rejet de moi. Sachez qu'encore aujourd'hui, le Seigneur peut vous faire grâce. Dieu, dans sa bonté, vous a mené ici, comme ce matin. Mais il va y avoir d'autres parmi nous pour qui ce n'est pas encore le cas. Je ne reconnais pas encore ce genre de regard. Qui viennent toujours comme s'ils sont maîtres de leur propre vie. Oui, même en venant ici à l'église. Même si on ne dirait pas « Ah oui, bravo à moi hein, » à haute voix devant les autres ici. Toutefois, il y a une fierté par rapport à qui je suis. Je me compare à d'autres et avec un peu de mépris dans mon cœur, je remarque. Tiens, moi, je ne suis pas comme X ou Y. Ou bien, je maintiens un système de récompense en mon regard de moi-même. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en grande partie car je le mérite. Mes études, mes heures au boulot, ma discipline, contrôle de soi, etc. Et cette attitude se révèle lorsque je me compare à d'autres qui, à mon sens, devraient mieux faire, n'est-ce pas? Un peu fatigué, Dix. Si seulement il arrivait à faire ce que moi, j'ai pu faire. Quel sale orgueil. Oui, laissez le Seigneur vous humilier ce matin, avant qu'il soit trop tard, c'est super important. Il se peut que j'ai un respect pour Jésus-Christ, chers amis, que je daigne fréquenter une église, m'associer avec des types un peu bizarres au sein d'une église. Il se peut que je joue un rôle clé dans cette église. Et cela, dans notre cœur, c'est grâce à moi, vous savez, à ma gentillesse, à ma fidélité. Quel saint orgueil. Ou bien ce n'est surtout pas à moi, vous savez, de demander pardon. Non, non, c'est lui qui a fait X, Y ou Z. Et même si, par ma réaction, mon attitude, mes propos durs, j'ai contribué toutefois à ce qui s'est passé. Oh, si lui ne veut pas changer, tant pis pour lui. Oui, même si Dieu me dit dans sa parole que moi je dois aussi le faire, maintenant je ne veux pas.
Vous savez?
Quel sale orgueil. Qu'en est-il d'un esprit un peu indépendant qui pense que je fais mon devoir religieux, on veut Dieu de temps en temps, demain, ici, mais jamais vais-je me contraindre à servir les autres de manière sacrificielle et régulière au sein d'une église locale. Oui, je sais que Dieu le dit dans sa parole, mais non, ce n'est pas vraiment mon truc, vous savez. Quel sale orgueil! Dangereux. Ressentir la même humiliation de Nebuchadnezzar afin de revenir à notre bon sens, cela c'est une grâce de la part de Dieu, chers amis. Et ici, revenir à son bon sens, verset 34, c'est de bénir le Très-Haut. C'est de louer et glorifier celui qui vit éternellement. C'est de reconnaître, verset 35, que nous, les habitants de la terre, ne sommes à ses yeux que n'ayons. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Ben ça, c'est la repentance. De reconnaître publiquement que j'avais tort d'avoir enlevé le Très-Haut de son trône. Et donc, maintenant, je commence à agir différemment par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Et c'est pour cela que je termine avec cette question. Qu'en est-il donc du roi puissant et mort? D'abord, pour le chrétien, c'est parmi nous. Rappelons-nous que même s'il ne semble pas toujours être le cas que Dieu est aux commandes, il y est, il règne. Et donc, vaut-il la peine de continuer en Jésus-Christ, même si cela est coûteux, même si j'ai du mal à voir la main souveraine de mon Dieu à l'œuvre parmi nous? Bien sûr. Pendant cette période de Noël, nous nous rappelons encore une fois que Dieu se sert de ceux qui se sont abaissés. Lorsque Marie, Luc chapitre 1, avait appris qu'elle sera enceinte, qu'elle enfantera un fils, elle avait chanté « Mon âme exalte le Seigneur ». Qu'avait-elle dit, verset 49 de Luc chapitre 1? « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les âmes. » Et qu'en est-il donc de vous si vous entendez ces mots conscients de votre propre humiliation devant le Très-Haut? Vous devez savoir que la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus, né à Bethléem, il est Dieu avec nous. Celui qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes du Nouveau Testament. Il s'est humilié, lui Dieu, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Cette croix, c'est là où nous nous sommes revêtus d'une justice qui ne vient pas de Dieu, de notre fierté de nous-mêmes, mais qui vient de lui. Aux genoux, nous approchons de lui à la croix pour recevoir ce qui nous est dû. Non pas pour recevoir ce qui nous est dû, car entendu, mais ce qui n'est rien qu'un don, sa grâce et son pardon. Et nous devons savoir que si nous résistons encore nous agenouiller devant lui, un jour, nous devons le faire. Car notre orgueil sera exposé, quoi qu'il en soit. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus. Je vous prie, chers amis, pour terminer. Temple, grand Seigneur, que tu nous aides à reconnaître à quel point notre vie dépend de toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos propres problèmes. Nous courons à Jésus-Christ, celui qui s'est humilié, pour que nous puissions connaître son pardon, nous puissions être élevés. Te louons, Seigneur, qu'un jour, cette réalité que tu règnes aujourd'hui sera connue par nous tous. Que Jésus-Christ, le Seigneur, et nous te prions donc que parmi nous, il y a de nouvelles personnes qui plient le genou devant Jésus-Christ, même aujourd'hui, même ce matin, lorsqu'ils reconnaissent que toi seul, tu es Dieu. Nous demandons cela au nom puissant de Jésus.